De Théophile Gautier, on a souvent retenu l'image du chef de file de l'art pour l'art, l'orfèvre du recueil Émaux et Camée, le poète à qui Baudelaire et les Parnassiens rendirent hommage. On le connaît bien aussi comme romancier, auteur de succès tels que le roman de la momie ou le capitaine Fracasse. On fréquente encore volontiers ses contes fantastiques, La morte amoureuse, Une nuit de Cléopâtre, ainsi que les récits excentriques des Jeunes France, roman goguenard, souvent cité comme une amusante parodie des outrances romantiques. En revanche, on sait généralement moins quelle importance capitale eut pour cet écrivain le théâtre. Or, non seulement ce dernier joue un rôle central dans des romans comme Le Capitaine Fracasse ou, à un degré moindre, Mademoiselle de Maupin, mais Gautier est aussi l'auteur d'une abondante production dramatique relevant de tous les genres imaginables. Mystère, vaudeville, bastonnade, proverbe, drame, arlequinade, comédie de cap et d'épée, pantomime militaire, symphonie descriptive, opéra comique, et j'en passe. Outre ses nombreuses pièces, écrites seules ou en collaboration, Gautier a écrit les livrets de plusieurs ballets, dont le plus célèbre est Gisèle, créé en 1841. Enfin, de juillet 1837 jusqu'à sa mort en 1872, Gautier a rédigé, chaque semaine ou presque, dans plusieurs journaux, le feuilleton dramatique, c'est-à-dire la rubrique de critique théâtrale qui prenait place au rez-de-chaussée du journal, sa partie basse, séparée du reste de la page par une ligne horizontale. Jusqu'en 1855, Gautier officie dans la presse, journal fondé par Émile de Girardin, puis il collabore au Moniteur universel jusqu'en décembre 1868. Ensuite, il travaille pour le journal officiel et puis, tout à la fin de sa vie, dans la Gazette de Paris, ce qui représente au total quelques 1400 feuilletons. Cet exercice critique implique une pratique de spectateur assidue et quasi quotidienne, qui occupa donc une part très importante de la vie de Gautier. L'ensemble de ces feuilletons compose de véritables mémoires d'un spectateur, dont on mesure l'ampleur grâce à leur édition en cours aux éditions Champion. Une fois achevée, cette édition de la critique théâtrale devrait occuper une vingtaine de volumes qui viendront se substituer à la très insatisfaisante, car très lacunaire, Histoire de l'art dramatique en France depuis 25 ans, publiée du vivant de Gautier à la fin des années 1850. Le premier enjeu de mon propos sera d'explorer ces articles, récits d'un spectateur de profession, afin d'examiner comment s'y inscrit l'expérience concrète de ce spectateur, comment s'y énonce sa subjectivité et dans quelle mesure y affleure une écriture de soi. Mais je souhaiterais examiner ensuite comment, chez notre auteur, le récit du spectateur ne se cantonne pas dans ses écrits critiques, mais déborde largement sur le reste de sa production. Le dernier essai de Gautier, Son histoire du romantisme, publié l'année même de sa mort, revient en effet de manière nostalgique sur une expérience de spectateur qui fut aussi, nous le verrons, une expérience héroïque. Quant au Capitaine Fracasse, son dernier roman, dont on a beaucoup dit qu'il était un roman des comédiens, je me proposerai de montrer pour finir qu'il est d'abord un roman du spectateur, nourri et façonné non plus par les souvenirs idéalisés de ce spectateur, mais par le rêve démiurgique de celui-ci. Penchons-nous tout d'abord sur les feuilletons dramatiques de Gautier. Nous venons de le dire, cet exercice journalistique, qui assurait à l'auteur ses revenus les plus réguliers, fut particulièrement accaparant, puisque tous les lundis, il fallait rendre compte au profit des lecteurs, de la manière la plus complète possible, de l'actualité des spectacles, actualité foisonnante à une époque où c'est le premier divertissement qui s'offre au public des villes, qui est un public de plus en plus nombreux et de plus en plus démocratisé. Le feuilletoniste doit guider ce public dans le choix des pièces qu'il ira voir, mais aussi lui fournir par sa chronique une sorte de petit théâtre de poche qui viendra se substituer au spectacle réel si le lecteur n'y a pas accès. Or, le premier constat qui s'impose quand on lit ces feuilletons dramatiques réunis en volume, c'est qu'ils ont bien souvent des allures de pensum et que l'expérience de laquelle ils découlent est d'abord déceptive. Le début du feuilleton paru dans la presse du 23 octobre 1837 donne le ton. Il y a eu cette semaine, écrit Gautier, un effroyable cataclysme dramatique. Les théâtres ont ouvert leurs écluses tous à la fois, et ballets, mélodrames, vaudevilles ont coulé à grands flots. Quel déluge, bon Dieu, que de Français étranges, que d'inepties plus ou moins laborieuses n'avons-nous pas été forcés d'entendre ? La critique théâtrale devient de jour en jour plus impraticable. Si quelques rares spectacles procurent à Gautier un plaisir esthétique et des émotions fortes, la plupart des pièces l'ennuient, l'accablent et lui donnent une opinion de plus en plus mauvaise de l'état du théâtre et du talent des dramaturges. Il écrit dans la presse du 30 octobre 1837 « Depuis 3 ans et plus, il ne sait pas jouer dans Paris une seule pièce littéraire, une seule pièce qui n'ait pas été taillée comme un habit sur le dos d'un acteur ou disposée pour des machines ou des décorations. La fabrique envahit tout. » Selon notre auteur, le théâtre est en effet entré en décadence depuis le milieu des années 1830. La place prépondérante donnée aux acteurs de premier plan, mais surtout l'industrialisation de la production, sont les causes de ce déclin qui est venu briser la dynamique enclenchée par l'avant-garde romantique. Le vaudeville, surtout, est la cible de cette dénonciation, non seulement parce qu'il repose sur une production en série, alors que Gautier aspire à un théâtre d'auteur, mais aussi parce qu'il imite de trop près la décevante réalité, alors que Gautier voudrait, je le cite, que le romanesque, le fantasque, l'idéal, le poétique eussent une part plus large dans le théâtre moderne. Le feuilleton paru dans la presse du 16 octobre 1837 rend bien compte de la lassitude du critique devant tant d'uniformité. L'on ne peut se figurer la misère et la pauvreté de la littérature dramatique actuelle. C'est quelque chose qui n'a ni fond, ni forme, ni esprit, ni bêtise, ni portée. C'est le néant palpable. On lève la toile, on la baisse. Ces messieurs et ces dames se promènent sur le théâtre en marmottant je ne sais quoi, puis l'on s'en va et tout est dit. Il n'y a réellement d'amusant au théâtre que les entr'actes. On se plaint en général qu'ils sont trop courts. Cette piètre idée que Gautier a du théâtre de son époque a plusieurs conséquences. D'abord, par réaction, il développe un goût prononcé pour des genres paralittéraires, genres où le texte s'efface au profit du spectacle et qu'on pourrait qualifier, à l'instar de Gautier lui-même, de spectacle purement oculaire. Il s'agit du ballet, très prisé par notre auteur, qui fut un grand amoureux des danseuses, Carlotta Grisi notamment, dont Gautier finit par épouser la sœur, la cantatrice Ernesta Grisi. Mais il s'agit aussi du cirque et de la pantomime, qui font les délices de notre écrivain, ainsi que de la féerie, genre où les costumes et les décors, démultipliés par les fréquents changements de scène, sont une composante essentielle. Gautier fait par exemple cet éloge des pilules du diable, féerie en 20 tableaux de Ferdinand Laloux, Anicet Bourgeois et Laurent Père. C'est un rêve que l'on fait tout éveillé. Toute la création vous passe sous les yeux en quelques heures. Ce qu'il y a de charmant dans ce genre de pièce, c'est le voyage immense que l'on fait avec les yeux sans bouger de sa loge. À chaque instant, le théâtre change. Ce sont des paysages avec des perspectives bleuâtres, des arbres empanachés, des gazons verts tout étoilés de fleurs, des palais étincelants de dorures, des îles enchantées, des enfers tout rouges et des ciels tout bleus, tout ce que la fantaisie la plus errante peut fournir au pinceau du décorateur. Seulement, il est dommage que l'on parle et surtout que l'on chante dans des pièces aussi vagues. La pantomime vaudrait mieux, car c'est un spectacle uniquement fait pour l'œil, rien ne doit distraire. Même dans des genres où le texte a plus d'importance, comme le drame, le vaudeville ou l'opéra, Gautier privilégie le spectaculaire. Les décors, qui sont souvent longuement décrits et qui peuvent même occuper la plus grande partie du feuilleton, les costumes, les accessoires, mais aussi le jeu des acteurs et la beauté des actrices, à qui notre auteur consacre des séries de portraits, galeries des belles actrices, où il s'attarde sur leurs qualités plastiques. C'est du reste par fidélité à ses impressions de spectateur que Gautier insiste ainsi sur les éléments visuels auxquels il a été le plus sensible. En effet, l'immédiateté de la représentation ne permet pas, selon lui, de faire un compte-rendu à chaud des éventuelles qualités littéraires et notamment stylistiques de la pièce, qualité qui ne se révèle vraiment qu'à la lecture une fois la pièce imprimée. On notera aussi que d'autres paramètres concrets de la représentation ont un impact important sur Gautier. La salle de spectacle, son aspect général, son confort, son ornementation occupent ainsi fréquemment le feuilleton, surtout quand il s'agit de décrire une salle fraîchement rénovée, les Italiens par exemple, qui rouvrent en octobre 1841, ou alors une salle qui vient d'être inaugurée, comme le théâtre historique en février 1847. Le théâtre est pour Gautier un lieu de vie, ce qui explique l'attention qu'il porte à ses aspects matériels, ainsi qu'à l'atmosphère de la salle. Ainsi, une partie des feuilletons est également dévolue à la description du public et de ses réactions, de sorte que certains feuilletons tournent à la chronique mondaine ou s'ouvrent à une sorte de sociologie des spectacles avant la lettre. La description des salles ou de leur public permet aussi aux critiques de meubler son feuilleton lorsque le spectacle lui-même est trop indigent. Et cette nécessité d'inventer des ruses pour remplir la rubrique du feuilleton est une dernière conséquence de la médiocrité du théâtre contemporain sur laquelle je souhaiterais m'attarder. Gautier évoque avec humour l'ingrate besogne du critique dans la presse du 30 octobre 1837. Ce matin, cette inquiétante idée que j'avais un article à faire est venue s'asseoir à mon chevet. 6 colonnes à reprendre en substruction sous l'édifice d'un grand journal politique. Meubler cet énorme rez-de-chaussée vide et nu de manière à en faire un logis confortable, où l'abonné ne se déplaise pas trop. Ô travaux d'Hercule, qu'êtes-vous en comparaison ? Nettoyer les étables d'Augias, tuer le lion de Némée, saisir à la course la biche au pied d'airain, étouffer l'hydre de Lerne, qu'est cela, mon Dieu ? Mais avoir de l'esprit toutes les semaines à un jour fixe, voilà un travail à courbaturer les Alcides antiques. Je suis étonnée que la jalouse Junon n'y ait pas songé. Nous le voyons à travers ce passage héroïque-comique, la mise en scène ironique de soi devient en elle-même une façon de meubler le feuilleton, qui devient l'espace d'une libre causerie entre Gautier et son lecteur, et qui s'ouvre volontiers à l'écriture de soi. Ces mémoires d'un spectateur sont aussi un journal du critique, car c'est d'abord dans ce rôle que Gautier s'auto-portraiture. Mais l'écriture personnelle prend aussi d'autres formes, et l'on voit s'esquisser d'autres figures de l'auteur. Par exemple, dans la presse du 1er octobre 1838, le critique s'excuse plaisamment d'avoir failli à son devoir en faisant l'école buissonnière, au lieu d'aller, comme il le devait, au théâtre des variétés. En lieu et place de son compte-rendu, on trouve alors un beau récit bucolique qui retrace cette évasion champêtre. Voyant que la journée était blonde et sereine, nous avons voulu profiter d'un des derniers sourires de l'automne et voir encore une fois le soleil véritable pour ne pas l'oublier entièrement, nous qui n'avons d'autre soleil que le lustre avec ses rayons d'huile et ses globes dépolis, et qui vivons au milieu de ce monde et de cette passion factice qu'on appelle le théâtre, comme si c'était le monde réel et le centre unique. On trouve d'abord affirmé cette dichotomie entre le monde artificiel du théâtre et l'univers naturel, mais on s'aperçoit en fait, dans la suite du récit, que l'habitus du spectateur de théâtre contamine le promeneur solitaire et parasite sa rêverie. Je poursuis ma lecture. Armés de notre lorgnette de théâtre, nous examinions l'ocre des berges, coupée çà et là de racines en forme de serpents et de paquets filamenteux, les pieuses et les planches des réserves à poissons, les saules aux attitudes difformes et bizarres. Puis le soleil couchant est décrit à la façon d'une toile peinte par un habile décorateur. Renversé sur la poupe, nous avons joui des effets du ciel les plus ravissants et les plus variés du monde. À mesure que l'heure s'avançait, des tons lilas, gris de perles, violets, d'une finesse extraordinaire, des bandes de brouillard pareilles à des pièces de gaz lentement dépliées, se déroulaient dans l'air et estompaient les contours de plans plus éloignés. C'était beau. C'est ainsi, finalement, encore une fois, le récit d'une représentation, celle d'une féerie naturelle et cosmique que fait Gautier à son lecteur. On l'a déjà suggéré, il y a cependant une grande exception au mépris que Gautier professe pour le théâtre contemporain, c'est le drame romantique. Cette exception n'en est d'ailleurs pas vraiment une, car hormis la création de Ruy Blas en 1838 et celle de quelques pièces réussies aux yeux de Gautier telles que Caligula de Dumas en 1837 ou Picillo et Léo Burckhardt de Dumas et Nerval en 1837 et 1839, hormis ces quelques résurgences, l'apogée du drame romantique se situe dans la première moitié des années 1830, soit à une époque où Gautier n'était pas encore le feuilletoniste régulier de la presse. Et même de 1836 à fin 1839, il n'est pas encore chargé au sein de ce journal du compte-rendu des pièces jouées à la Comédie-Française, de sorte qu'en 1838, ce n'est pas Gautier qui fait le compte-rendu de Ruy Blas. On trouve dès lors deux grandes catégories de textes dans lesquels Gautier rend compte d'une expérience qui est non plus une expérience déceptive et frustrante, mais qui est une expérience de plaisir intense, d'admiration et même d'enthousiasme devant des pièces tenues pour des sommets de l'art dramatique. Dans le premier cas de figure, il s'agit de feuilletons consacrés à des reprises de ces drames portés au nu par Gautier, par exemple Hernani, Lucrèce Borgia, Marion Delorme de Hugo, Antony ou La Tour de Nesle de Dumas. Quelques remarques à propos de ces textes. L'argument de ces pièces étant désormais bien connu, Gautier n'a pas besoin d'en faire l'analyse, c'est-à-dire le résumé, de sorte que les commentaires sur les beautés de l'œuvre ont beaucoup plus de place. Or, cette critique des beautés est la plus noble des critiques aux yeux de Gautier, qui place très haut l'admiration dans la gamme des émotions. L'admiration est pour lui un véritable état de félicité, mais aussi une forme de communion avec l'artiste, donc une manière pour le spectateur de sentir et de se comporter lui-même en artiste. Gautier insiste sur son plaisir, sur une joie qui, souligne-t-il à propos d'une reprise de Lucrèce Borgia, lui est rarement donnée, vu la médiocrité ambiante, mais il met aussi l'accent sur les réactions du public et les progrès de celui-ci par rapport à l'époque de la création. Il développe l'idée que le public peut s'éduquer, devenir sensible à d'authentiques chefs-d'œuvre qu'il avait d'abord jugés choquants. L'évolution des horizons d'attente du public est ainsi mise en exergue dans la presse du 22 janvier 1838 à propos d'une reprise d'Hernani. 8 ans se sont écoulés. Le public a fait comme le prophète qui, voyant que la montagne ne venait pas à lui, alla lui-même à la montagne. Il est allé au poète. Ces beaux vers cornéliens, amples et puissants, s'enlevant aux cieux d'un seul coup d'aile, comme des aigles montagnards, ont excité les plus vifs transports. Le sentiment de la poésie n'est pas aussi mort en France que certains critiques veulent bien le dire. Et nous n'en sommes pas réduits à ne pouvoir digérer comme nourriture intellectuelle que la crème fouettée du vaudeville. Chez Gautier lui-même, l'admiration devant les œuvres et la satisfaction de voir évoluer le public se mêlent à la nostalgie. Celle-ci devient de plus en plus palpable au fil du temps. Elle est très sensible, par exemple, dans le Moniteur universel du 7 octobre 1867, où Gautier rend compte d'une reprise d'Antony de Dumas, qui avait été créée en 1831. Gautier exprime d'abord sa crainte d'affronter les fantômes du passé. Quand on a, comme nous, assisté aux grandes premières représentations de l'école romantique, champ de bataille de lutte littéraire opiniâtre, on éprouve un plaisir mêlé d'une certaine mélancolie à revoir après tant d'années ces œuvres qui passionnaient si vivement les générations d'alors et qui furent l'éblouissement de notre jeunesse. L'autre soir, en mettant le pied sur le seuil du petit théâtre où l'on reprenait Antony, il nous prenait des hésitations. Et si notre devoir de critique ne nous eût pas poussé en avant, nous nous serions en allés par un sentiment semblable à celui qui vous fait craindre de vous trouver 20 ans après devant une belle femme dont on a gardé un amoureux souvenir. Que reste-t-il de ces charmes autrefois adorés ? Et ne vaudrait-il pas mieux éviter cette dangereuse confrontation du passé et du présent ? Puis, au lieu de raconter la reprise, c'est la première que Gautier raconte avec prolixité et avec une passion qui reproduit celle de cette soirée exceptionnelle où, je cite Gautier, la salle était vraiment en délire et où la passion brûlante de la pièce avait incendié tous les cœurs. Le critique revit ainsi par l'écriture l'effet que produisit ce drame sur le public incandescent et la jeunesse volcanique de l'époque, avant d'évoquer brièvement, en quelques lignes seulement, la reprise elle-même. Le second cas de figure, dans lequel Gautier rend compte de pièces qui l'ont marqué et dont il n'a pas eu l'occasion de parler à l'époque de leur création, ce sont les textes rétrospectifs qui composent l'histoire du romantisme, rédigés par l'auteur au soir de sa vie et interrompus par sa mort en 1872. Texte où l'épisode fondateur de la bataille d'Hernani occupe une place centrale. Cette soirée devait être, selon nous et avec raison, le plus grand événement littéraire du siècle, puisque c'était l'inauguration de la libre, jeune et nouvelle pensée sur les débris des vieilles routines. Dans cette histoire du romantisme, la nostalgie domine, ainsi que l'affirmation d'une fidélité à soi, par-delà le temps qui passe et les intermittences du cœur ou de l'esprit. La nostalgie de ces pages est d'abord tournée vers la révolution esthétique qui s'accomplit au début des années 1830. Ce fut, écrit Gautier, une des époques climatériques de l'esprit humain. Sa nostalgie s'oriente également vers une époque de fraternité qui réunit dans une même effervescence créatrice, une même aventure collective, une même âme, les jeunes troupes romantiques. Être jeune, intelligent, s'aimer, comprendre et communier sous toutes les espèces de l'art. On ne pouvait concevoir une plus belle manière de vivre, et tous ceux qui l'ont pratiquée en ont gardé un éblouissement qui ne se dissipe pas. Enfin, cette nostalgie a pour objet l'enthousiasme et l'intégrité de la jeunesse, cet esprit d'indépendance et même de révolte, que Gautier a pu avoir le sentiment de renier en devenant fonctionnaire du Second Empire. N'est-il pas devenu journaliste au Moniteur universel, organe officiel du régime et bibliothécaire de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III ? Quand d'autres choisissaient l'exil. Cette nostalgie idéalisante transfigure les récits de spectateurs qu'on trouve dans l'histoire du romantisme en une véritable épopée du spectateur. Gautier écrit la geste d'un temps mythifié, inauguré par la première représentation d'Hernani. L'incipit donne le ton. De ceux qui, répondant au corps d'Hernani, s'engagèrent à sa suite dans l'âpre montagne du romantisme et en défendirent si vaillamment les défilés contre les attaques des classiques, il ne survit qu'un petit nombre de vétérans disparaissant chaque jour comme les médaillés de Sainte-Hélène. Nous avons eu l'honneur d'être enrôlés dans ces jeunes bandes qui combattaient pour l'idéal, la poésie et la liberté de l'art, avec un enthousiasme, une bravoure et un dévouement qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Le chef rayonnant reste debout sur sa gloire comme une statue sur une colonne d'airain, mais le souvenir des soldats obscurs va bientôt se perdre, et c'est un devoir pour ceux qui ont fait partie de la grande armée littéraire d'en raconter les exploits oubliés. Ce faisant, Gautier bâtit aussi sa propre légende, celle du jeune Trublion à la chevelure mérovingienne et au flamboyant gilet rouge qui, en bon lieutenant du général Hugo, dirigea bravement le bataillon qu'on lui avait confié lors de la bataille d'Hernani. Cette légende, du reste, est largement autoparodique, car elle brode à l'envi sur ce qui est devenu du vivant déjà de Gautier un véritable cliché. Mais tout en y apportant un humour et une autodérision bien caractéristiques de sa manière, Gautier sculpte avec ses textes son propre médaillon, cheveux longs et gilet cramoisi, qui deviendra un emblème du romantisme. En même temps, l'évocation de ce temps et de cette soirée légendaire est pour l'auteur au bord du tombeau le moyen de renaître. Ses souvenirs galvanisent l'écrivain qui s'écrit « 25 février 1830 ». Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractère flamboyant, la date de la première représentation d'Hernani. Cette soirée décida de notre vie. Là, nous reçûmes l'impulsion qui nous pousse encore après tant d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout dans la carrière. Bien du temps s'est écoulé depuis et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l'enthousiasme de notre jeunesse et toutes les fois que retentit le son magique du cor, nous dressons l'oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats. Pour achever cet exposé, je me tournerai assez rapidement vers une dernière œuvre de Gautier, Le Capitaine Fracasse, paru en feuilleton dans la Revue nationale et étrangère, puis en librairie en 1863. On y retrouve en effet la pratique du Gautier feuilletoniste, mais appliquée à un nouvel objet, et les déceptions du spectateur réel débouchent sur l'élaboration d'un nouveau type de théâtre, théâtre rêvé dont le romancier se fait le témoin imaginaire en même temps que le chroniqueur. On connaît l'argument de ce roman célèbre, je n'y reviens pas, et l'on se souvient que les personnages principaux de ce roman sont des comédiens itinérants du temps de Louis XIII. Le romancier consacre donc de longs développements à leur mode de vie, mais aussi aux conditions de la représentation et au répertoire dramatique du début du XVIIe siècle, répertoire avec lequel, on le sait, Gautier s'est familiarisé grâce à la série d'études intitulée « Les grotesques » qu'il a écrite entre 1834 et 1844. Déjà dans « Les grotesques », qui est un jalon essentiel dans la genèse du Fracasse, Gautier paraphrase de nombreuses œuvres baroques qu'il entreprend d'exhumer pour les faire découvrir aux lecteurs, notamment des pièces de théâtre. De même, dans « Le Capitaine Fracasse », il s'emploie, mais cette fois comme romancier et non plus comme essayiste, à ressusciter des pièces jouées par les comédiens. Ce sont des pièces réelles, par exemple la tragicomédie de Georges de Scudéry, Ligdamon et Lydias, dont une représentation est longuement rapportée au chapitre 9. Ce peut être aussi des pièces inspirées de pièces réelles, une comédie de Scarron, par exemple, ainsi que l'illusion comique de Corneille, inspire les rodomontades du capitaine Matamor, dont une représentation est narrée en détail au chapitre 5 du roman. Mais même dans le premier cas, en fait, il s'agit finalement de pièces imaginaires, dans la mesure où Gautier n'a jamais assisté à leur représentation et n'en a pris connaissance que sous forme imprimée. Or, pour rendre compte de ces représentations fictionnelles, Gautier emploie des procédés très similaires à ceux des feuilletons critiques. Les séquences en question débutent par la description de la salle et du public. Puis sont dépeintes les décorations de la pièce. Enfin, celle-ci est longuement racontée, c'est-à-dire que Gautier en fait ce que l'on nomme au XIXe siècle l'analyse, soit le résumé détaillé, avec des pauses à chaque entrée en scène d'un acteur, de façon à décrire le costume et la physionomie de celui-ci. L'écrivain reproduit ainsi de près le protocole rédactionnel qu'il met en œuvre chaque semaine au rez-de-chaussée du journal, où déjà, c'est ce que note Olivier Barra, les données dramatiques sont converties en narration sous la plume du critique. Cependant, Gautier va plus loin que dans ses feuilletons pour actualiser sur la scène imaginaire du roman ces dramaturgies du passé qui nourrissent sa rêverie. D'abord, dans les séquences qui nous intéressent, l'action des pièces est diégétisée de telle sorte que la frontière s'estompe avec le récit romanesque. Cette action est en effet d'abord transcrite à l'imparfait, puis le passé simple prend le pas, alors que dans les feuilletons, c'est le présent qui domine largement pour résumer les pièces. Ensuite, les dialogues des personnages sont rapportés sous forme de discours indirects, narrativisés, indirects libres, mais ce discours est également abondamment cité au discours direct, selon une modalité qu'on ne trouve guère non plus dans les feuilletons, sinon sous forme de bribes. Enfin, on assiste dans ces séquences à de curieux phénomènes qui ont attiré l'attention de Gérard Genette dans son ouvrage Métalepse, paru en 2004, parce que ces phénomènes constituent justement une transgression des codes énonciatifs et des niveaux narratifs. C'est-à-dire que le narrateur-spectateur du Capitaine Fracasse en vient à s'introduire dans la cervelle des personnages de théâtre pour nous restituer au psychorécit leurs pensées. On lit par exemple dans le chapitre 5, voyant qu'il n'y avait pas moyen de faire une reculade, Matamor s'enfonça son feutre jusque sur les yeux. Ou encore, malgré cet échec, aucun doute ne vint à l'obstiné Pandolphe sur l'héroïsme du Matamor. Et on voit bien ici comment le narrateur-spectateur traite ses personnages de théâtre exactement comme le romancier fait de ses propres personnages. On peut donc lire dans ces séquences romanesques le fantasme réalisé d'un spectateur rêvant de pénétrer l'intériorité des personnages de théâtre, de s'amalgamer à leur univers ou d'en faire ses créatures. Or, ce fantasme, en définitive, s'accomplit à l'échelle du roman dans son entier. Les personnages s'y confondent presque totalement avec leur rôle de théâtre et l'intrigue est celle d'une tragicomédie, comme cela est souligné plaisamment à plusieurs reprises. Comme transposition romanesque d'une tragicomédie baroque au second degré, le Capitaine Fracasse est bien le prolongement de ces récits de spectateurs que Gautier a passé sa vie à écrire. Et l'on pourrait presque, en termes rhétoriques, décrire ce roman comme une amplification de ces feuilletons. Mais il est aussi l'exutoire des frustrations du spectateur réel, et il a permis à Gautier de s'échapper au siècle baroque, tout en renouant avec les belles années romantiques de sa jeunesse, où l'époque Louis XIII fut si en vogue. Pendant ce long travail, écrit l'auteur dans son avant-propos, nous avons vécu rétrospectivement, nous reportant vers 1830, au beau jour du romantisme. Pour conclure, je voudrais souligner combien le feuilleton dramatique, cette galère, c'est Gautier qui utilise ce terme, cette galère sur laquelle Gautier dut ramer toute sa vie, a en réalité fécondé l'ensemble de sa production littéraire. Et je voudrais également souligner combien le récit de spectateur, chez notre auteur, a partie liée avec l'écriture personnelle et la quête existentielle. Le compte-rendu critique, lassé de remâcher la médiocrité des pièces contemporaines, s'évade vers la causerie à sceaux et à gambades et s'ouvre à l'écriture diariste, celle du journal intime. Intimité certes relative, puisqu'elle est partagée avec des milliers de lecteurs. L'histoire du romantisme, tout en bâtissant la légende des batailles romantiques et de leurs acteurs, permettent à l'auteur de renouer avec l'authenticité de sa jeunesse et esquisse une recherche du temps perdu. Le moi créateur de Gautier, enfin, déploie ses ailes dans ce roman du spectateur qu'est le Capitaine Fracasse. L'auteur vieillissant s'y réconcilie avec le bouillonnant jeune France qu'il fut et l'expérience souvent fastidieuse des spectacles réels se sublime dans l'expérience fictionnelle d'un théâtre rêvé, théâtre extravagant, voire impossible, qu'il appartenait finalement au romancier de créer. Je vous remercie de votre attention.